Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec Ambline Roche et Martin Lange. On commence par les unes de vos journaux et justement Paris. Paris héroïque à la une du Parisien avec à l'image Kylian Mbappé, héros de la soirée face au Bayern. À déguster, glacé, titre l'équipe avec exactement la même photo, glacé. Ça c'est pour le climat hier soir à Munich. Le froid qui sévit aussi en France. Et Ouest-France en fait sa une. Les vignes sont mises à rude épreuve. Les conséquences de la crise sanitaire sont aussi en première page de vos journaux. L'inquiétude notamment pour le bac 2021 dans la Dépêche du Midi. Le flou aussi pour le sport amateur auquel s'intéresse la Voix du Nord. L'adaptation permanente. Et vous lirez dans le Figaro une enquête sur les insuffisances de nos services de réanimation. Enfin, le débat sur la fin de vie et sur l'euthanasie aujourd'hui à l'Assemblée fait les gros titres de plusieurs de vos journaux. Nice Matin, La Provence, faut-il changer la loi ? Il est temps, répond Libération. En 3 ans, 3 lois et 4 rapports, la question reste encore taboue, écrit le journal. La Croix s'intéresse à l'exemple belge, la Belgique où l'euthanasie est possible depuis 19 ans maintenant. Et l'Opinion pointe le non-choix d'Emmanuel Macron. Allez, voici les 3 histoires qui nous ont interpellés ce matin, et donc celle des généalogistes avec vous, Ambline.
Oui, qui ne connaissent pas la crise, hein. Ils ont beaucoup de travail. C'est dans le Figaro, en France, une 100aine d'offices traitent 16 000 dossiers et retrouvent 150 000 héritiers. Un travail de titan qui peut durer des années, car le code civil est très clair. En l'absence de testament, les notaires doivent épuiser tous les recours jusqu'au 6e degré avant de solder une succession ou de la déclarer vacante. Et ils font appel aux notaires ou généalogistes. Un travail parfois de fourmi et pas payant. Les généalogistes se paient au pourcentage. Hein. 80% des dossiers n'aboutissent pas.
Dans ces cas-là, ils ne gagnent rien.
Ils gagnent
rien. Si ça n'aboutit pas, ils ne gagnent
Exactement.
Rien.
Exactement. Ce sont des énigmes à résoudre en général. Ils sont des détectives qui remontent des pistes grâce à des archives administratives, des faire-part de décès dans la presse locale, des livrets de famille. Ils sillonnent la France, mais pas seulement, comme ce dossier avec 157 héritiers disséminés dans 22 pays. Le défunt, sans descendant direct, laisse 100 000 euros. Alors 100 000 euros divisé par 157, ça fait beaucoup. Résoudre des énigmes, d'accord, mais ne pas tout dire pour ne pas détruire des familles, car des successions révèlent des secrets comme cet homme qui menait une double vie, autant d'enfants dans chaque foyer, né quasiment au même moment, portant les mêmes prénoms. Ce père, soi-disant mort en héros pendant la guerre du Golfe et qui en fait avait abandonné sa famille, il vient de décéder. Voilà, il ne faut pas casser les foyers non plus. Le code civil, lui, s'adapte, mais pas assez vite selon les notaires. Le président du Conseil supérieur du notariat, David Ambrosiano, milite pour la création d'un pacte de famille qui permettrait des arrangements familiaux clairs. Selon lui, la transmission du patrimoine, qui continue de reposer juridiquement sur le droit du sang, est de moins en moins adaptée aux familles recomposées. Les règles sont claires, elles sont toujours en faveur des enfants, même si on ne les voit plus. Aujourd'hui, faire hériter ces beaux enfants sans les adopter officiellement, c'est impossible. Généalogiste au cœur des guerres de succession, c'est dans le Figaro.
Ils font un métier assez fascinant parce que c'est vraiment des enquêtes long cours qui les emmènent parfois à l'autre bout du monde pour aller explorer des registres extrêmement anciens, etc. Ouais. Les généalogistes, donc ils retrouvent les héritiers, c'est-à-dire dans le Figaro ce
ils
matin.
Disent notre bureau c'est dehors.
Ouais.
Ça veut tout dire.
Allez, moi je vous emmène déjeuner, je réserve une table pour 3, ça vous va ?
Avec plaisir.
Avec très grand plaisir.
Alors il y a ces photos qui font un peu rêver dans aujourd'hui en France, les terrasses qui rouvrent à New York, le café au soleil à Lisbonne, ça y est, la vie normale qui reprend, les Anglais qui vont retrouver leur pub. Et puis vous tournez 2-3 pages dans le même journal et puis là vous êtes à Paris, dans un resto en intérieur, sans masque, un resto du Paris chic. Discret mais bien ouvert, titre Le Parisien, qui nous raconte que leurs journalistes ont pu aller y déjeuner. Dorade sauvage, risotto, crumble en dessert, petit verre de vin blanc, 75 euros pour 2, c'est pas donné quand même.
Un petit goût d'interdit aussi.
Et avec un gros goût d'interdit, effectivement. Alors on est dans le Triangle d'Or, près des Champs-Élysées. Énième exemple de restaurant clandestin bravant les mesures sanitaires, pas de masque, salle bondée, table serrée, voilà, à l'ancienne, comme si de rien n'était. Là, c'est un espace de coworking haut de gamme qui dispose de son propre restaurant qui ne donne pas sur la rue, donc ça ne se voit pas, c'est assez discret. Mais l'accès semble tout simple, il suffit de passer l'accueil et de prétexter un rendez-vous et vous accédez à la salle qui donne sur une petite cour. Et selon le journal, ça ne désemplit pas, le resto tourne à plein régime depuis le début de la crise. D'habitude, C'est autour de 80 couverts le midi. En ce moment, ça peut monter à 150. De riches clients, alors parce qu'il faut d'abord être abonné à cet espace de coworking, ça coûte 500 euros par mois.
Oh.
Ok. Donc ce sont des avocats.
Le menu paraît assez peu cher.
Oui, voilà, c'est rien du tout. En fait.
Alors ce sont des avocats, des entrepreneurs. C'est un espace de coworking qui héberge notamment des startups. Il faut bien continuer à organiser des déjeuners pour voir ses contacts.
Ah bah alors.
Voilà ce que dit une participante. Un pur bonheur, ajoute un autre client régulier. À la fin, on paye par carte bancaire, tout comme d'habitude. Et ça marche si bien que la maison recrute un cuisinier, un chef de rang, un commis de salle, un barman, des CDI à pourvoir. Je crois qu'il y a assez peu de restos qui peuvent en dire autant en ce moment.
Mais ça va beaucoup moins bien marcher après cet article.
Alors c'est possible. Alors on va suivre. On va suivre. J'imagine qu'il y aura des suites. C'est à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. Resto discret, mais bien ouvert dans le Paris chic. Martin, on termine avec vous.
Oui, avec une monnaie numérique qui est expérimentée en Chine. Alors, il ne s'agit pas d'une crypto-monnaie comme les bitcoins dont on parle beaucoup, mais vraiment d'une monnaie nationale contrôlée par la banque centrale chinoise, comme les euros ou les dollars pour les euros chez nous, mais uniquement numérique, sans billets ni pièces. Elle porte d'ailleurs un petit nom, l'ICNY, et c'est le Wall Street Journal qui nous la présente.
Voilà, la crypto-monnaie chinoise, à quoi elle va servir?
Alors déjà, il faut savoir que la Chine, malgré sa puissance commerciale, ne parvient pas à rivaliser avec le dollar sur les marchés. Seuls 4% des transactions mondiales se font en yuan, contre près de 90% avec la monnaie américaine. Alors pour faire son retard, Pékin mise sur cette nouvelle monnaie numérique qu'elle a déjà lancée. Près de 100 000 personnes ont téléchargé une application qui permet de payer dans les commerces comme McDo ou Starbucks en Chine. Alors ça, c'est pour le côté pratique, mais en théorie, le Parti communiste espère tirer deux avantages de cette nouvelle monnaie. Premièrement, lui donner une date d'expiration. Ça, c'est pour obliger les gens à dépenser, très pratique pour éviter l'épargne et accélérer, par exemple, une politique de relance économique. Deuxième avantage, et pas des moindres en Chine, la surveillance. Grâce à cette monnaie virtuelle, l'État peut tracer toutes les transactions. Et ça, vous imaginez bien que ça plaît beaucoup aux dirigeants chinois.
Cette monnaie virtuelle, elle inquiète plutôt les pays occidentaux.
Oui, parce qu'ils ont peur d'un phénomène à la Uber, que tout le monde se jette sur cette monnaie au détriment des devises traditionnelles, à l'image de ce qui s'est passé avec les taxis abandonnés pour les chauffeurs privés. Cette monnaie chinoise pourrait passer complètement sous les radars des pays européens, être utilisée par des personnes sans compte bancaire, par exemple, voire même par des États qui veulent échapper à des sanctions ou des embargos. Bref, révolutionner le système bancaire mondial.
Oui, c'est ce qui s'applique d'ailleurs à toutes les crypto-monnaies qui donnent lieu à un certain nombre de trafics.
Les crypto-monnaies, il y a très peu de visibilité. Là, c'est un État qui contrôlerait toutes les transactions, enfin, en tout cas, qui aurait une visibilité sur toutes les transactions.
Crypto-monnaie chinoise qu'on utilise, c'est quoi le ICNY?
Yes.
Je sais pas comment ça se
ICNY, je l'ai dit ICNY, en anglais, mais je suis pas sûr du tout.
Ça doit se dire en chinois quelque part. Je sais pas. 5h24, merci à tous les deux.
Merci.